Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un droit fondamental qui est le droit à l'alimentation. Avec nous, dans ce studio, un peu en dehors de ce studio, plutôt derrière le téléphone, Vivien Bourgeon, d'Ingénieurs sans frontières. Bonjour Vivien.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Vivien, vous êtes membre d'un collectif dont le nom est en même temps le projet, c'est-à-dire que ça s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un concept novateur dont nous allons parler. Mais d'abord, dites-moi, de qui se compose ce collectif ?
Alors effectivement, moi je suis militant dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. Et on est membre d'un collectif, donc pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui se compose évidemment d'Ingénieurs sans frontières, mais aussi d'un certain nombre de partenaires que sont Réseau Salariat, Réseau CIVAM, la Confédération Paysanne, le collectif Démocratie Alimentaire, l'Ardeur, qui est une association de conférenciers gesticulants, l'UFAL et Mutual, qui sont des mutuelles, l'Atelier Paysan et les Amis de la Confédération Paysanne. Et enfin, le réseau VRAC.
Donc ce projet semble être une œuvre collective en tous les cas.
Oui, tout à fait.
Mais avant de l'aborder, ce concept de la sécurité sociale alimentaire, je voudrais savoir, Vivien, pour vous, comment vous définissez le droit à l'alimentation ?
Alors nous, pour définir le droit à l'alimentation, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur une définition qu'a donnée Jean Ziegler. Donc Jean Ziegler, c'est une personne qui a été rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, donc sur la période 2000 à 2008. Et donc lui définit ce droit comme le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, donc soit directement, soit au moyen d'un achat monétaire, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, qui corresponde aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Donc c'est vrai que c'est une définition qui est, on va dire, assez lourde, mais oui, qui a le mérite en fait d'être, de prendre toutes les dimensions en fait de l'alimentation et de se donner l'ambition de les mettre en œuvre pour atteindre ce qu'on appelle le droit à l'alimentation.
Et alors donc la France, où tout le monde sait que c'est un des pays les plus riches du monde. Et donc, il y a 5 à 7 millions de personnes qui n'ont pas droit à une alimentation saine, d'après vos propos, et qui ont recours à l'aide alimentaire. Alors, est-ce que l'aide alimentaire, pour vous, ça n'a rien à voir, d'après ce que vous avez commenté de Jean Ziegler, avec le droit à l'alimentation ?
Alors, pour revenir juste...
Oui, dites-moi.
Oui. Écoutez, simplement sur les chiffres. On est bien aujourd'hui entre 5 à 7 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc, au passage, ça représente 10% de la population française. Oui. C'est très loin d'être négligeable. Et surtout, ce chiffre était de 2,6 millions en 2006. Donc, ça veut dire que sur une période de 15 ans, il a été plus que multiplié par deux. Donc c'est quand même à noter. Et pour nous, en fait, l'aide alimentaire, ce n'est pas du tout le droit à l'alimentation, puisque l'aide alimentaire tend à pointer du doigt en fait les personnes qui ont recours, puisqu'elles ne sont pas comme tout le monde, elles ne peuvent pas accéder elles-mêmes à leur alimentation, et elles ne peuvent pas non plus choisir, puisqu'elles sont principalement nourries à partir des dons qui sont réalisés donc par les grandes et moyennes surfaces aux associations de l'aide alimentaire, et qui sont finalement les invendus en fait. C'est des gens qui se nourrissent principalement avec ce que les autres personnes de la société n'ont pas voulu acheter ou pas pu acheter. Donc,
Est-ce que vous voulez dire qu'en se nourrissant des rebuts un peu de l'alimentation, ils sont un peu considérés eux-mêmes comme des rebuts de la société, enfin, ou s'il y a un peu
En tout cas, c'est comme ça que le définit donc Bénédicte Bonzi, qui a fait une thèse sur ce qu'elle a conceptualisé, les violences alimentaires.
La violence alimentaire, oui.
Et donc pour elle, c'est vraiment une forme de violence alimentaire, puisque la loi qui permet en fait aux grandes entreprises, enfin aux grandes et moyennes surfaces, de défiscaliser leurs dons à l'aide alimentaire, est une loi qui traitait de la réduction du gaspillage. Oui. Et donc en fait, en faisant des dons aux banques alimentaires, etc., on considère que ça réduit le gaspillage. Donc on peut considérer aussi que ces personnes qui ont recours à l'aide alimentaire sont une sorte de poubelle éthique. En tout cas, elles peuvent le vivre ainsi. Et ça peut être vraiment une violence alimentaire.
Et donc, ça conduit, enfin, on a presque dit Bénédicte Bonzi, donc à des personnes qui sont isolées, satellisées.
Oui, bah, complètement, puisque du coup, vous êtes vraiment en marge des pratiques alimentaires du reste de la société. Et d'autant plus qu'on sait que l'alimentation est vraiment un vecteur en fait, d'inclusion sociale, de partage, etc. Et donc ces personnes-là ben, ont davantage de difficultés à mettre en œuvre ces dimensions de l'alimentation, puisque déjà elles ne peuvent pas choisir, elles n'ont pas forcément la capacité à inviter des personnes chez elles à partager des repas, etc.
Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'au départ, il y avait une idée vertueuse amenée par Coluche, passé l'hiver, et que cette idée donc, s'est dégradée ?
Si, tout à fait, hein. L'idée de Coluche, au départ, est très bonne, mais lui, il dit tout de suite que ça s'inscrit dans un contexte d'urgence et que le problème de ça, c'est que ça s'est installé dans le temps et que pire, c'est devenu en fait un pilier sur lequel se repose l'État, en fait.
Oui,
alors... Donc, l'État délègue une part de sa politique sociale à des associations de ce type qui sont complètement institutionnalisées, qui sont dans le paysage aujourd'hui et dont on ne pourrait plus faire sans. Dans le système actuel.
Et est-ce que ça profite au secteur de l'agroalimentaire ?
Bah, quelque part, oui, dans le sens où ça leur permet d'une part d'être, on va dire, en constante surproduction pour que bah, les rayonnages soient bien achalandés, etc. Que nous, qui allons faire nos courses, voyons toujours des rayons remplis et qu'on puisse choisir. Et, parce qu'ils savent très bien que derrière, en fait, ce qui ne sera pas vendu, ils pourront le défiscaliser via des dons. Et quand même, cette défiscalisation représente aujourd'hui jusqu'à 450 millions d'euros donc de défiscalisation. Donc c'est 450 millions d'euros récupérés par ces groupes industriels, enfin les grandes et moyennes surfaces, et perdus quelque part pour l'État, puisque c'est des recettes fiscales en moins.
Donc c'est un manque à gagner pour la solidarité nationale, quelque part.
Tout à fait. Ouais. Et j'ajoute que sur l'aide alimentaire, il y aurait 200 000 bénévoles qui mettent de l'énergie dans ce système. Donc c'est tout à fait vertueux et ils ont raison de le faire en l'état des choses. Mais on peut imaginer qu'avec déjà d'une part ces 450 millions d'euros qui pourraient être perçus par l'État et ces 200 000 bénévoles qui sont prêts à donner un peu ou beaucoup, voire très beaucoup de leur temps pour cette cause, on pourrait faire beaucoup mieux que de donner une part du rebut à des gens qui n'ont pas les moyens de procurer
leur alimentation. Pour être utilisé, bien sûr, à d'autres fins, c'est ce que vous dites. Et vous dites également qu'on fait persister aussi une alimentation à deux vitesses qui repose également sur une agriculture à deux vitesses.
Exactement, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, et c'est pas nouveau, hein, les politiques agricoles et alimentaires françaises défendent ce qu'elles appellent en fait la coexistence des modèles. Alors ça, c'est un concept qui signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie entre... l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, l'agriculture de firme, etc., etc. On considère que tous ces modèles se valent et tous méritent d'exister puisqu'ils trouvent leur débouché. Et donc, tous ces modèles-là, il n'est pas question d'en privilégier un plus que l'autre, il faut en fait qu'ils coexistent. Donc du coup, ben, c'est vrai qu'on a d'une part un système agricole capitaliste, agro-industriel, dont le principal objectif, c'est de faire de la nourriture standardisée, massifiée, et de maximiser ses profits. Et d'autre part, en fait, on a des initiatives plus alternatives, plus respectueuses des humains et des écosystèmes. Je vous les ai citées, agriculture biologique, agriculture paysanne. On peut ajouter le commerce équitable. Et donc, en fait, on a ces deux systèmes agricoles qui coexistent. Et du coup, ça a pour conséquence ben, une dualisation de l'alimentation ensuite, puisque ben, on a d'une part des personnes qui ont plutôt accès à des produits de mauvaise qualité, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller chercher d'autres produits, qui ont des conséquences négatives sur l'environnement. Ça, on le sait, c'est plus à démontrer, hein, sur l'eau, sur l'air, sur le sol, sur la biodiversité, mais aussi sur la santé, avec de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, et d'autre part, en fait, des personnes qui sont plus aisées, plus éduquées, et qui, elles, ont accès à une alimentation de qualité, issus de modes de production et de transformation qui sont beaucoup plus vertueux et bien meilleurs pour la santé.
Et donc les producteurs qui sont vertueux n'ont pas forcément donc s'adressent à une clientèle aisée. Et donc voilà, donc c'est peut-être presque paradoxal, peut-on dire, par rapport à leur éthique.
Et tout à fait. Mais en même temps, il faut trouver en face la demande solvable, capable de payer le juste prix des produits de qualité qu'ils proposent.
Eh bien, maintenant, Vivien, venons-en aux solutions, puisque vous avez cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Tiens, ça nous fait penser à une autre sécurité sociale qui date de la fin de la guerre de 1945.
Tout à fait.
Et du CNR. Oui, alors parlez-moi. Qu'est-ce que cette sécurité sociale de l'alimentation ?
L'idée de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'ajouter un nouveau pilier au régime général de la sécurité sociale. Sur le modèle de ce qui a été mis en place dès 1946, donc qui repose sur trois principes en fait. Hein. Le premier, c'est l'universalité de l'accès.
C'est-à-dire.
Alors, vous voulez peut-être que je vous les développe un par un ?
Peut-être dites-moi, l'université de l'accès d'abord, et puis on
verra les deux autres ensuite, oui. Pas de problème. Alors, si on va sur l'universalité de l'accès, nous, ce qu'on propose, c'est que chaque personne puisse recevoir 150 euros par mois, donc qu'il soit crédité, par exemple, sur sa carte vitale, et dédié uniquement à des achats alimentaires. Et quand on dit chaque personne, c'est vraiment chaque personne.
Et quel que soit son niveau de revenu, même ceux qui sont très aisés.
Exactement.
Alors
donc tout le monde, y compris Bernard Arnault, si on peut le citer, il aura droit à ses 150 euros. Mais évidemment, l'idée, c'est qu'en fait, il n'y ait pas qu'une partie de la population qui touche ces aides-là, puisque ce serait stigmatisant, et qu'on considère qu'une politique pour les pauvres, on aime le dire, reste une pauvre politique.
D'accord.
Et donc, il faut qu'une politique s'adresse à tous pour qu'elle ne soit pas stigmatisante. Donc, tout le monde, chaque personne, enfant, adulte, riche, pauvre, percevrait 150 euros par mois sur sa carte vitale pour des achats alimentaires.
Pour avoir une consommation de qualité. Et donc, après, à quel professionnel vous allez vous adresser, en fait ?
Et là, c'est là qu'est tout l'enjeu. Hein. C'est le deuxième pilier, c'est d'avoir un conventionnement démocratique des professionnels auprès desquels on peut dépenser ces 150 euros. Et donc, l'idée, c'est de choisir donc démocratiquement les critères qui permettent en fait qu'une personne soit reconnue par la Caisse de Sécurité Sociale et qu'elle puisse vendre ses produits et qu'ils soient achetés avec la carte vitale alimentaire.
Donc une certaine vertu sera demandée, c'est ce que vous
entendez ? Oui, alors évidemment, mais sauf qu'on ne veut pas fixer de critères a priori.
Oui.
Ce qu'on se dit, c'est qu'on fait confiance en fait aux citoyens qui seront réunis dans des caisses de sécurité sociale de l'alimentation pour, par l'intelligence collective, par la mise en place d'un accès à une information plurielle sur les enjeux agricoles et alimentaires, on leur fait confiance pour définir les critères qui leur semblent justes pour dépenser cet argent auprès de produits de qualité. Et donc, en fait, c'est un peu s'inspirer de ce qui s'est fait dans la Convention citoyenne pour le climat, où des personnes, elles ont été tirées au sort dans ce cadre-là, on pourrait imaginer la même chose, on pourrait imaginer que des gens soient nommés, élus, faut voir comment on veut représenter les choses, mais en tout cas, de les mettre tous ensemble et de leur donner accès à des personnes d'horizons divers, avec diverses visions du système agricole et alimentaire, pour qu'elles puissent se faire collectivement leur propre avis et définir ensemble, en tant que citoyens, les critères qui, pour eux, vont dans le sens de l'intérêt général. Et on pense vraiment que ça permet de s'extraire de la position de consommateur, où là, on réfléchit plutôt par son propre prisme, et plutôt aussi, généralement, par contrainte économique, puisque là, elles n'auront pas d'enjeu. Elles ont un enjeu de représenter les autres et de faire ce qui leur semble.
L'intérêt collectif, alors. Oui.
L'intérêt collectif. Ouais.
Et alors, comment vous allez financer le projet ?
Et ça, c'est le troisième pilier, effectivement. Hein. Financement, pour nous, basé sur la cotisation sociale, comme c'est le cas aujourd'hui pour la sécurité sociale sur le plan de la santé. Hein. Donc, on imagine qu'il y aurait une cotisation. Et pour ça, il nous faut trouver, en fait, 120 milliards d'euros. Pour financer les 150 euros par mois et par personne, il nous faut 120 milliards d'euros par an. Ça représente environ 8% de la valeur ajoutée produite en France. Et donc, il faut qu'on aille prélever cette cotisation. Aujourd'hui, on n'a pas tranché à quel niveau on trouverait le plus pertinent de le faire. Est-ce que c'est sur une cotisation salariale, cotisation patronale ? Est-ce que c'est sur uniquement l'enveloppe des salaires, est-ce que c'est sur la totalité de la valeur ajoutée des entreprises ? Tout ça reste à discuter. mais en tout cas, on aimerait bien que ce soit sur une cotisation sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas un impôt et que cet argent ne transite pas par les caisses de l'État. Il est bien mis dans une caisse de sécurité sociale de l'alimentation et géré par les personnes qui sont élues ou tirées au sort dans la caisse de sécurité sociale.
Cotisation sociale qui dépend des revenus de chacun.
Exactement. On est vraiment sur un modèle où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et considérant qu'on a peu ou prou des besoins assez similaires en termes d'alimentation, pour l'instant, on part sur un système où tout le monde reçoit la même chose.
Très bien, Vivien. Malheureusement, donc, le temps passe et notre émission est courte, mais je pense que vous avez su nous dire l'essentiel. Moi, ce que je retiens, c'est, très souvent, donc, on entend beaucoup de plaintes et de peurs dans notre société. Donc là, je vois que vous êtes ingénieur et vous nous proposez des solutions. Ça change ?
Ben écoutez, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps en tant que militant, et on en passe encore, hein, à lutter contre des choses, contre des projets, contre des réformes. Et on va encore certainement devoir le faire avec ce qui nous attend sur les retraites. Mais aujourd'hui, on a eu envie de proposer quelque chose pour lutter pour. C'est-à-dire d'amener une solution et de se dire, on a envie de créer un imaginaire commun qui nous semble vertueux, dans lequel on aimerait vivre, et ben, de se mettre en ordre de bataille pour le défendre et le proposer. Et donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire avec la sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'on a vraiment une bataille culturelle à mener pour proposer un autre avenir et un autre horizon pour l'agriculture et l'alimentation dans notre pays, qui paraissent à la fois réalistes et à la fois souhaitables au plus grand nombre d'entre nous.
Eh bien, Vivien, je vous remercie pour cette note d'espoir que vous nous amenez. Et je vous dis à bientôt peut-être. À bientôt, amis auditeurs.
Je vous remercie également.